Deutsche Welle. L'arbre à palabre.
Bonjour. Des scènes de colère de populations réclamant à leurs autorités l'eau et l'électricité. Voilà ce qu'a vécu ce mois de septembre et sur plusieurs semaines la localité de Boké, située à 300 km au nord-ouest de Conakry, la capitale de la Guinée. Des scènes devenues habituelles dans beaucoup de pays africains, riches en minerais, mais dont les populations manquent du minimum. Et pourtant, elles entendent ces populations souvent parler de gros contrats d'exploitation minière avec de grosses sommes d'argent à la clé, des sommes d'argent dont seules quelques personnes voient la couleur. Au contraire, ce sont ces populations qui payent de leur santé, de leur vie parfois, le prix de l'exploitation minière. Pourquoi une telle situation? Les pressions exercées par les organisations de la société civile produisent-elles des résultats? Voilà quelques-unes des questions au menu aujourd'hui de la discussion. Au téléphone avec nous, trois invités, Fatou Baldé Niansané, économiste de formation, vous êtes la présidente du comité des femmes, leader de Guinée, et vous êtes la vice-présidente d'une plateforme des organisations de la société civile guinéenne. Fatou Baldé Niansané, bonjour.
Bonjour, monsieur Kenom.
Al-Mustapha Alassane est président de l'ONG Arnman, basée à Arlit au Niger. Vous êtes un ancien collaborateur de la multinationale française Areva. Monsieur Alassane, bonjour.
Bonjour à vous.
J'espère avoir bien prononcé le nom de l'organisation.
C'est satisfait pour celui qui n'est pas tamachèque.
Merci beaucoup. Et Arnman, ça signifie, vous me disiez off record, c'est-à-dire hors micro, vous me disiez que c'était protection de l'esprit, c'est ça?
Non, protection de l'âme.
Protection l'âme. De l'âme.
Voilà, Ima.
Voilà. Merci beaucoup. Kofi Kwaku, en ligne d'Afrique du Sud, vous êtes politologue, maître de conférences, vous êtes spécialiste de stratégie et planification, mais aussi des questions minières, et vous enseignez à l'université Witwatersrand de Johannesburg. Merci d'être avec nous. Kofi Kwaku, bonjour.
Bonjour.
Ma première question, Madame Fatou Baldé Niansané de Guinée-Conakry. Alors, un pays potentiellement riche, mais où certains services de base manquent. Comment appréciez-vous, Madame Niansané, les événements de Boké où les populations se sont, comme je le signalais tantôt, révoltées contre le manque d'eau et d'électricité, alors que, disent-elles, la région possède l'une des plus grandes réserves de bauxite au monde?
Bon, vous savez, les événements de Boké sont regrettables. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons prévenu il y a très longtemps que les zones minières vont constituer à un moment donné une menace réelle pour la paix.
Parce que vous savez, vous constatez que ces zones ne sont pas développées, c'est ça?
D'abord, les zones ne sont pas développées. Deuxième chose, lorsque les exploitants miniers arrivent, ils ne tiennent pas compte des us et coutumes des autochtones. Ils ne communiquent pas bien, très bien avec les autochtones. Mais encore plus grave, lorsque vous prenez le cas de Boké, c'est tous les jours on creuse la terre rouge qu'on transporte par camion, ce qui fait qu'il est aujourd'hui impossible de respirer correctement à Boké. Alors c'est une dégradation accrue de la qualité de vie à Boké. Plus les compagnies minières s'installent, plus on voit la terre sortir de Boké, plus Boké et ses environs s'enfoncent dans la pauvreté.
Voilà, je dois rappeler que la Guinée n'a pas que de la bauxite, la Guinée a aussi du fer et d'autres minerais encore. Et on s'imagine que les difficultés vécues par les populations de Boké sont les mêmes que celles des autres populations dans les autres régions. Alors, réaction de M. Al-Mustapha Alassane, des manifestations semblables à celles de Boké ont sans doute aussi eu lieu à Arlit, au Niger?
Oui, il y a eu des manifestations, c'est vrai, mais en fait, ces problèmes, en réalité, on a tendance toujours à l'attribuer aux autorités africaines. Les gouvernements africains, ils sont victimes comme leur population.
Ah bon, c'est une version qu'on n'entend pas souvent, en effet.
Oui, ils sont victimes comme nous. Je ne crois pas, personnellement, à ce qui me concerne, qu'il y a un gouvernement d'un pays qui veut avoir sa population dans la pauvreté, dans la misère. Non. Et les problèmes, on les connaît, mais on l'esquive en acquisant, si vous voulez, les autorités dont nous sommes tous conscients de la limite de leurs actions sur le plan mondial. Bon, je prends le cas du Niger, par exemple.
Oui.
Le cas du Niger, l'une des choses qu'il faut noter, c'est que l'uranium n'a jamais été vendu à sa valeur énergétique. Aujourd'hui, les coûts de la production d'un kilo d'uranium tournent à environ 10 euros, par exemple. Or, de l'autre côté, il est vendu à 50 000 francs CFA, ce qui fait à peu près 20 à 30 euros. Or, nous, à notre point de vue, sa valeur énergétique, si elle était considérée, elle doit être vendue au moins à 300 euros le kilo. Donc, tous ces paramètres ne permettent pas... Qu'est-ce que voulaient, en fait, les autorités africaines fassent par rapport à ces multinationales? Et chacun de nous, surtout les politiciens, ou la société civile, sont conscients du vrai problème qu'on esquive.
On va en arriver à ce que vous appelez le vrai problème tout à l'heure, mais j'aimerais bien connaître la réaction de Mme Baldé Niansané lorsque M. Al-Mustapha dit que les autorités sont autant que les populations victimes.
Peut-être que c'est le cas au niveau du Niger, mais pour le cas de la Guinée, moi je peux vous certifier que c'est avec la bénédiction des autorités que les populations autochtones se retrouvent dans cette situation. Quand vous prenez le cas de la mine de Forestaria, il y a les minerais de fer là-bas, il y a une société qui est venue s'installer ici en consortium avec des Chinois et des Australiens. Ils ont travaillé pendant plus d'une année et ils n'ont déclaré avoir sorti que 500 tonnes de minerais de fer, alors que dans le décompte, il y a eu près de 1 350 000 tonnes de sorties. Et lorsqu'il y a eu une enquête parlementaire qui a été diligentée et qui sont allés vers le ministère des Mines, cette société n'a jamais été enregistrée au ministère des Mines. On n'a pas retrouvé les traces du permis d'exploitation. Et avec tout ça, le premier ministre de l'époque était originaire de cette zone. Il est même allé, quand il y a eu des émeutes dans les villages où cette mine était installée, il est lui-même parti supplier les populations de ne pas barricader les routes. Il faut laisser la société travailler, ça va développer la localité. Ça veut dire qu'il était conscient que la société est là.
Madame Baldé Niansané, donc, selon vous, le gouvernement collabore, coopère à cette situation dans laquelle vivent les populations?
En tout cas, pour le cas Guinée, c'est avec la bénédiction du gouvernement.
Madame Niansané, une seconde, on va donner la parole à Kofi Kwaku rapidement. Monsieur Kwaku, je rappelle que vous êtes politologue et vous vous intéressez aux questions d'exploitation minière en Afrique. Comment est-ce que vous expliquez-vous la pauvreté dans laquelle les populations vivent malgré la richesse du sous-sol?
Ben écoutez, je suis vraiment d'accord avec Mme Sané. Il y a peut-être quelques très rares cas en Afrique. Il y a des pays qui réussissent à avoir des leaders qui peuvent discuter avec les compagnies minières. Par exemple, en ce moment, en Tanzanie, vous avez le président John Magufuli qui est en train de mettre sur place un système légal avec des lois qui permettent aux compagnies de vraiment exploiter les mines avec la possibilité que les Tanzaniens puissent bénéficier de cette exploitation. La même chose se passe aussi avec le président Kama au Botswana sur les diamants. La même chose commence aussi à se présenter en Namibie. Donc il y a une nouvelle tendance qui commence à grimper, mais la tendance n'est pas vraiment forte. Et on voit par exemple que dans la plupart des pays africains, et où je suis d'accord avec Mme Sané, c'est que les leaders africains, les responsables africains de gouvernement, ils sont complètement soit bouleversés par les stratégies des compagnies minières ou elles font partie directement de cette que moi j'appelle une fraude, en fait, une exploitation vraiment très profonde, pas seulement des mines, mais des êtres humains. Et ça va prendre vraiment du temps et il faut changer la mentalité de nos responsables africains pour se rendre compte qu'ils peuvent agir, ils peuvent faire quelque chose pour changer les situations. Ça ne doit pas seulement les bénéficier à eux, mais s'ils changent leur pensée que ça doit bénéficier leur pays, on pourra peut-être voir des changements.
Merci beaucoup, Kofi Kwaku, pour votre première intervention. Alors, Monsieur Al-Mustapha Alassane, peut-être que c'est l'occasion de nous expliquer pourquoi vous soutenez que les dirigeants politiques sont en partie victimes de ce qui se passe. Avant cette émission, j'ai discuté avec Marc Onan, qu'on ne présente plus. C'est un acteur de la société civile au Gabon. Le Gabon qui a de l'uranium, du manganèse, du bois également et d'autres choses encore, mais il explique que certaines autorités ont des parts dans le capital de certaines organisations étrangères qui viennent exploiter ces minerais et il y a conflit d'intérêts. Il n'y a pas de déclaration qui soit faite sur les contrats qui sont signés et donc c'est dans cette opacité que les partages se font. partage de prébendes et autres. Alors, vous avez sans doute l'information aussi, Al-Mustapha Alassane.
Moi, je garde mon cap. Les gouvernements africains sont victimes de ce qui arrive en Afrique. Aujourd'hui, en fait, il y a les problèmes de la pauvreté et de l'ignorance. Aujourd'hui, la majorité des temps dépensés par ces autorités africaines, c'est de faire venir du riz, c'est de faire venir de l'huile, c'est de faire venir ce que va manger cette population. Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'en Afrique, on a plus de populations qui mangent que qui produisent. Donc, toutes ces situations, c'est ça que gèrent les dirigeants. Ce n'est pas seulement les petits filons de dioxyde ou de l'uranium. Je n'ai pas dit que les autorités ne sont pas au courant ou bien elles n'ont pas donné l'autorisation d'exploitation et autres. Ils les donnent, ces autorisations, mais on sait souvent pourquoi ils les donnent. Ce n'est pas parce que entre-temps, ils ont la pression de cette population qui cherche du travail, etc., etc. Quelque part, on est aussi responsable. Parce qu'aujourd'hui, quand, par exemple, à Arlit, si on demande de fermer l'uranium, mais l'État du Niger aura tous les 3000 travailleurs autour de lui et leur famille.
Le problème que vous posez, donc, si nous comprenons bien, c'est que les pays n'ont pas les capacités de former les gens pour travailler eux-mêmes ces minerais. Et donc, on a finalement peur que les entreprises étrangères qui ont la technologie ferment les portes et partent. C'est bien ça?
Il y a un peu cet aspect, mais avant cet aspect, les entreprises sont là dans leurs propres intérêts. Et puis, c'est ça qu'elles défendent. Elles défendent leurs intérêts. Maintenant, nous autres, en Afrique, quelles sont les possibilités que nous avons pour défendre nos intérêts? Il faut se la poser, cette question. Et il est bon de se la poser parce que ça va nous conduire à travailler et à chercher à comprendre. Aujourd'hui, si nous avons la technologie de faire de nous-mêmes notre uranium, et ils ont fait des centrales nucléaires, et ils ont fait des bombes, etc. Et nous, si on a la possibilité de faire des avions, est-ce qu'on va nous faire de cette histoire-là, de notre uranium ou de notre dioxyde? Mais on ne sait pas quoi en faire, même si on le sort. On n'a aucune technicité locale. Aujourd'hui, donc, nous sommes victimes de notre ignorance et de notre non-participation au développement ou de recherche, etc. Donc
oui, vraiment, Monsieur Al-Mustapha, vous qui avez travaillé pendant plusieurs décennies pour une multinationale comme Areva, qui travaille dans le secteur de l'uranium, dites-nous comment ça se passe concrètement. Alors,
l'uranium nigérien a été sauvagement exploité. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la ville, elle se trouve à moins de 5 km d'Oiseau, où elle est exposée à la radioactivité, au radon, au gaz, à la poussière, etc., etc. Et en dehors de cela, le Niger ne profite pas de son uranium. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est seulement la pollution durable. C'est-à-dire nous avons plus de 50 millions de tonnes d'ithéryl qui contient 80% de la radioactivité exposée à l'air libre dans les déserts. Et puis, la radioactivité a une vie de milliards d'années. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, comment on va faire de cet ithéryl qui est là en train de détruire les gens? Et puis, une des choses aussi qu'il ne faut pas oublier, au départ, Areva ne nous a jamais, nous a pas prévenu du danger de la radioactivité. Voilà une des choses que nous trouvons, en tout cas, inacceptable. Il y a des ferrailles qui sont abandonnées dans les riz, il y a des listériles contaminés dans les riz, dans des maisons, etc., etc. Donc voilà ce qu'on a vécu. C'est pourquoi j'ai dit l'uranium n'a jamais été considéré à sa valeur énergétique. On ne l'a pas demandé. Nous, on n'a pas demandé l'exploitation de l'uranium. On nous l'a imposé.
Mais qui?
Donc ça,
qui,
il ne faut pas fermer les yeux là-dessus pour dire... Je vais dire ce qu'il exploite, peut-être Areva et le gouvernement français.
Alors, Kofi Kouakou, que vous inspire un peu les explications de M. Al-Mustapha Alassane? On ne va pas quand même nous dire que ces multinationales débarquent en Afrique et que les autorités ont leur bande les yeux et que les dirigeants politiques n'ont pas la capacité quand même de tirer les choses au clair, de poser des questions. Et les assemblées nationales sont là pour parler de ces contrats avant leur signature, etc. Comment est-ce que vous réagissez, M. Kouakou?
Oui. Écoutez, je réagis avec horreur que jusqu'à présent, le Niger, avec des gens, des leaders talentueux, des gens, le président du Niger, même notre collègue en ce moment, qui n'arrive pas à réfléchir sur des moyens de prendre en main quand même. Le Niger, ça fait longtemps que le Niger est indépendant. Donc la connivence et l'ignorance des responsables africains dont notre collègue parle sont déplorables et ça doit changer. Comment les Chinois se sont arrangés pour avoir des technologies? Comment les autres peuples s'arrangent pour avoir les technologies? On ne peut pas seulement se plaindre ou blâmer les compagnies. Il faut tirer des leçons et comprendre que les ressources qu'on a doivent bénéficier les gens. Si on s'assoit, qu'on a pas une façon, pas seulement de réfléchir, mais d'agir, comme en ce moment le président John Magufuli en Tanzanie est en train de le faire, ou au Botswana, mais on va encore se retourner dans l'esclavage, c'est-à-dire qu'il y a Arriva qui pratiquement dirige le Niger. Donc, est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce que les leaders nigériens, les dirigeants nigériens sont de connivence avec la compagnie et qu'ils font subir les misères et les retombées de l'exploitation minière et humaine aux Nigériens? C'est inadmissible.
Fatou Baldé Niassané, quelle est votre opinion à vous? On sait que ces multinationales qui débarquent, elles ont sans doute le soutien de leur pays. On parle souvent, c'est des Britanniques qu'on parle, des Russes, des Français, des Américains, mais aussi de plus en plus maintenant des Chinois. Mais comment est-ce qu'on peut faire, selon vous, pour changer cet ordre des choses, pour que les Africains ne soient plus dupés dans la signature de ces contrats?
Moi, je pense qu'il serait dommage de penser que les autres qui viennent chercher la matière première en Afrique sont ceux qui sont responsables de notre misère. Après 60 ans d'indépendance, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme ressources techniques en termes de personnes qualifiées pour décrypter les contrats, on ne fait pas appel à ces gens-là. C'est la course à l'enrichissement. Et quand vous prenez les Chinois chez eux, ils produisent, ils font de la production intelligente, ils protègent leur environnement. Quand ils viennent en Afrique, ils s'en foutent. Ils ne protègent même pas les travailleurs qui sont sur le terrain. Ce n'est pas normal que depuis 60 ans que le Niger, par exemple, est indépendant et n'a de ressources principales que l'uranium, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de transfert de technologie, il n'y a pas de transfert de compétences. Les gouvernements africains manquent réellement de vision parce qu'aujourd'hui, on aurait dû créer des écoles professionnelles qui puissent produire beaucoup d'aides ingénieurs et d'auxiliaires au niveau de ces mines-là. Mais vous verrez que lorsqu'on ouvre une mine, il n'y a pas d'ingénieurs de mine, il n'y a pas de cadre qualifié pour ça. C'est des conducteurs d'engins, c'est des pauvres femmes qui viennent pour faire la cantine. C'est du travail dérisoire que les autochtones font pour gagner de l'argent des sous-traitants de ces mines. On ne cherche jamais à savoir comment ça se fait.
Madame Baldé Niassané, on voit aussi que ces entreprises construisent en échange des contrats, des infrastructures. Il y a des écoles qui sont construites, il y a parfois des centres de santé, mais aussi des infrastructures routières. Est-ce que ce n'est pas satisfaisant?
Pour le cas de la Guinée, il n'y a aucune infrastructure routière construite sur la base des mines. Toutes les grosses infrastructures que nous possédons ici sont financées par l'Union européenne, l'AFD, l'Agence française de développement, la BADEA, la BAD. Les Chinois, en Guinée, il n'y a pas une seule route ici qui est faite par les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font? Actuellement, vous avez peut-être entendu parler que notre pays a fait un accord, un cadre de prêt de 20 milliards de dollars. Mais les 20 milliards de dollars, quand vous décryptez, c'est du troc. Ils vont venir prendre les matières premières. La Guinée va faire des projets qu'on va soumettre à la Chine. Si c'est un projet de route, c'est des entreprises chinoises qui vont d'abord être recrutées. Et lorsque même nous faisons les cahiers de charges, il faut que les Chinois soient d'accord que les coûts et les montants qui sont inscrits dans ces cahiers de charges, ils les acceptent ou ils ne les acceptent pas. Et pendant 20 ans, nous sommes hypothéqués au vouloir des Chinois.
Mais le pouvoir guinéen dit que c'est un bon contrat, Madame Niassané.
Bon, ils diront que c'est un bon contrat. Maintenant, comment vous pouvez hypothéquer 20 ans de toute une nation avec un seul pays qui va monopoliser toutes les mines de Guinée? Pourquoi?
Monsieur Al-Mustapha Al-Hassen, Monsieur Kwaku a pris tout à l'heure quelques exemples des histoires de succès, comme par exemple en Tanzanie avec le président John Magufuli ou certains pays anglophones en Afrique australe qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Mais Monsieur Al-Hassen, on a vu que le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a tenté de faire un peu la même chose avec Arriva, mais ça n'a pas bien marché. Alors, où est-ce que le problème se pose selon vous?
Tout à l'heure, ces gens-là, mes collègues ont parlé de l'indépendance. Moi, j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi ce mot indépendance. Parce que tout est nous emporté. Même les papiers sur lesquels on écrit, tout est emporté en Afrique. Donc, je me demande c'est quoi l'indépendance là. Je pose en tout cas la question. Maintenant, revenons un peu, si vous voulez, à la technologie. La technologie, elle se transmet. Et je peux prendre le cas du Niger, de la Soumaïr. Quand on a commencé, il y avait zéro cadre nigérien presque. Mais aujourd'hui, le président du Niger a demandé ce qu'on appelle la nigérisation. Et cette nigérisation, aujourd'hui, on a même des directeurs, si vous voulez, généraux de ces sociétés qui sont nigériens. Mais ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas la technologie tant que telle qui est fabriquée chez nous. J'ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, si les Nigériens peuvent faire quelque chose de leur uranium, est-ce qu'on aurait besoin de les vendre? On les fera sur les champs si on a la technologie nécessaire. Et c'est cet appel que je lance aux Africains d'étudier pour trouver des technologies pour nous-mêmes et puis éduquer nos enfants et après s'intéresser au problème d'uranium.
Voilà, je pour le cas concret du président.
Espagne, là. En Espagne, j'ai constaté qu'une société est en train de leur imposer actuellement une mine. Et ils sont là, les maires ne sont pas contents, il y a toute une... ça grogne, mais en tout cas, on les impose, même en Espagne, ce n'est pas seulement en Afrique. Ces multinationales sont puissantes, il faut les reconnaître.
Elles sont puissantes et elles sont soutenues par des États puissants.
Leurs États.
Mais on parle de souveraineté, les États sont égaux normalement, donc on revient à la même question, où est-ce que le problème se pose? J'ai pris le cas du président du Niger.
Je ne sais pas, j'ai expliqué, j'ai dit d'abord, il faut qu'il y ait, les Africains, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils produisent.
Monsieur Alassane, qu'est-ce que le président du Niger craint en demandant à Areva de plier bagage si la multinationale n'accepte pas les conditions?
Je l'ai expliqué. D'abord, s'il demande de plier, il aura tous ses travailleurs et la population de 200 000 arbitres sur les dos. Voilà ce qui va lui arriver. D'ailleurs, vous avez constaté, l'État du Niger a demandé qu'Areva paye des taxes et Areva refuse de les payer. Donc, s'il vous plaît, il faut pas, moi, à mon avis, il ne faut pas fermer les yeux et puis se lancer tout simplement derrière ces États que nous avons élus nous-mêmes. Et chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. En fait, ils ont été élus, ces gens-là.
Voilà. Alors, Fatou Baldé-Niassané, nous sommes presque à la fin de l'émission. Il y a quand même des pressions que vous exercez en tant qu'acteur de la société civile. Est-ce que ces pressions produisent un quelconque résultat pour que l'exploitation minière profite mieux aux populations?
Oui, vous savez, c'est un travail de très longue haleine. Nous essayons de, par exemple, là, nous sommes en train de voir de près qu'est-ce que contient ce fameux accord de prêt de 20 milliards sur 20 ans.
Excusez-moi, mais l'État guinéen a déjà signé le contrat avec les Chinois. Hein.
Donc, oui, ils ont signé le contrat. Maintenant, oui. Les projets qui vont être soumis, parce que s'il ne faut pas qu'ils aillent signer un contrat qui ne profiterait à rien du tout aux populations, tout fraîchement élu, le président a dit qu'il a réussi à avoir 700 millions de dollars avec Rio Tinto. Aujourd'hui, Rio Tinto n'est même plus en Guinée. Les 700 millions de dollars sont où? On a posé ici première pierre du Trans-Guinéen pour l'exploitation du minerai de Simandou. Ces gens-là sont partis. Donc nous avons fini par quoi? La Guinée aujourd'hui est muselée avec les Chinois pour on ne sait comment et pourquoi et quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et à qui profite? C'est à la classe dirigeante.
Merci beaucoup, madame.
Donc, nous essaierons toujours de continuer à faire la pression, mais tout en sachant aussi que ce n'est pas une chose facile.
Les résultats sont lents. Merci beaucoup. Alors, Kofi Kwaku, vous avez entendu. Comment est-ce que vous croyez qu'on peut faire, monsieur Kwaku, pour que les populations quand même puissent tirer le maximum de profit de ces richesses?
D'abord, je veux dire que je supporte ce point de madame Baldé. On ne peut pas abandonner. On ne peut pas jeter les mains et dire, bon, écoutez, ces compagnies sont tellement puissantes qu'on ne peut rien faire. Et en conséquence, je veux dire que le futur des industries minières en Afrique est social. Donc moi, j'ai fait un peu de travail en fait pour Rio Tinto, pour le conscientiser un peu. J'étais en Guinée il y a à peu près 5 ou 6 ans. Cette semaine, je dois être à Richards Bay Mineral pour leur donner quelques conseils sur le rôle important de cet aspect social. Et nos responsables africains doivent faire de ça le centre de leurs activités à la fois politiques, économiques et sociales.
Merci beaucoup, Kofi Kwaku. Vous avez été interpellé, Al-Mustapha Alassane. Je vous laisse dire un élément de réponse rapidement, je vous en prie, en une phrase.
Non, mais en fait, ça me fait rire. On dirait que les gens ne veulent pas... Je ne sais pas s'ils le font exprès ou pas. J'ai dit que nos dirigeants ont besoin de notre soutien. Je demande aux Africains de se prendre en charge qu'on cesse de nous traiter pour des gens qui ne travaillent pas. Voilà ce que je suis en train de dire.
Merci
voilà.
beaucoup. Et voilà. Il faudrait aussi veiller à ce que ces dirigeants ne volent pas l'argent issu de l'exploitation
minière. C'est notre
minière.
Rôle de la société civile. C'est ce que nous faisons chaque fois qu'il y a quelque chose, on le rappelle. Voilà. Et ça, c'est voulu par nos États. Ça, c'est nos constitutions. Et c'est dans tous les pays du monde que c'est comme ça.
Merci, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de la discussion d'aujourd'hui. Merci à Al-Mustapha Al-Hassen, président de l'ONG Arnman, basé à Arlit, au Niger. Fatou Baldé-Niansané, économiste de formation et directrice exécutive du Comité des femmes leaders de Guinée. Et Kofi Kwaku, politologue, professeur à l'université Witwatersrand de Johannesburg, spécialiste des questions minières. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont entendus. Et à la semaine prochaine pour un autre thème sous l'arbre à palabres.